France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Nous avions quitté hier Jean Sibelius au tournant des 19e et 20e siècles, composant ses deux premières symphonies, deux grandes symphonies de trois quarts d'heure qui ne se refusaient pas une certaine grandeur romantique. Rien de tel avec la troisième, qui marque un tournant vers quelque chose de beaucoup plus dépouillé, plus que trois mouvements, une demi-heure seulement, une grande économie de moyens, comme une forme d'épure classique. Elle commence par un rythme très reconnaissable au violoncelle et basse, tabadabadam pam pam, qui prépare la voix à un chant très pur des bois, un appel des corps assez solennel, et au bout de cette progression, une mélodie profonde et grave des violoncelles, et tout ça en moins de 2 minutes. Comme vous y êtes maintenant habitué chez Sibelius, ce très beau thème va se modifier, connaître un moment un peu sombre, passer par des tensions. Écoutez-le par exemple au basson, puis clarinette et hautbois, pendant que les cordes font une figure obstinée, une fois de plus en mouvement perpétuel, la sauce monte et au sommet, le soulagement avec le retour du rythme qui avait introduit la symphonie, et cette fois dans toute son ampleur. On passe ensuite au deuxième mouvement qui est le mouvement lent, sauf que, attention, accrochez-vous, il est noté « Andantino con moto quasi allegretto », autrement dit « petite andante avec du mouvement comme un allegretto », traduisez « surtout ne pas être statique ». C'est un des plus merveilleux chants de Sibelius, d'une grande simplicité, apparente en tout cas, car rythmiquement il est à 6 temps, sans qu'on arrive toujours à savoir si c'est binaire ou ternaire. Il commence par une atmosphère nocturne, d'où se détache à la flûte, le thème calme, émouvant, un peu triste, mais très lumineux. On dirait un thème populaire. D'ailleurs, la famille Sibelius le chantait dans la maison d'Ainola que le compositeur venait de faire construire au bord du lac Tuusula, au nord d'Helsinki, appelé Ainola à cause du prénom de sa femme, Aino, avec qui il a eu 6 filles. Écoutez cette mélodie dansante et nostalgique. Tard dans le mouvement, ce thème reviendra au violoncelle, très habilement assaisonné par des pizzicati de cordes, encore plus lyrique, avec une clarinette mélancolique et puis une modulation qui le rend soudain plus souriant, avec de petites incises des bois qui apportent leur touche de lumière. Thank you. Alors tout ça paraît très classique hein, pour une symphonie créée en 1907, au moment où Strauss donne Elektra, où Schoenberg s'apprête à rompre avec la tonalité. Mais ne vous fiez pas aux apparences, le début du dernier mouvement de la troisième symphonie de Sibelius est tout à fait désarçonnant. Ce sont des bribes, sans lien apparent entre elles. Sibelius parlait de cristallisation du chaos. Pour ma part, j'adore cette impression de ne pas très bien savoir où on va, pour l'avoir vu au programme d'un concours de direction d'orchestre, c'est très déstabilisant pour les jeunes chefs. Klaus Makkala et l'Orchestre Philharmonique d'Oslo dans ce début du final de la troisième de Sibelius qui semble ouvrir plein de portes et de fenêtres à la fois sans vraiment se fixer. En 1907, année de la création de cette troisième symphonie, Sibelius rencontre Gustav Mahler avec qui il est en désaccord. Il n'aime pas la démesure de sa musique alors que lui aspire à plus d'assaise, de dépouillement. Eh bien, cette troisième est une première étape vers un dégraissage de l'orchestre. L'étape suivante va être beaucoup plus radicale. C'est la quatrième symphonie, composée en 1910 et qui ne ressemble à rien de ce qu'on a connu jusque-là. Je vous ai déjà parlé de la tendance dépressive de Sibelius qui s'accompagnait d'un très fort penchant pour l'alcool. Et voilà qu'en plus, en 1907, il est opéré de la gorge pour un soupçon de cancer. Alors, Peu importe de savoir si cette proximité de la mort a pu inspirer la quatrième, l'intérêt est surtout musical. On a là une musique incroyablement sombre, rude, assez terrifiante en fait. Alors quand je dis sombre, il suffit de voir l'orchestration du début. Violoncelle, contrebasse, basson, on ne peut pas être plus ténébreux. On a des frottements harmoniques, dissonants et un pauvre violoncelle solo qui évoque une solitude absolument sans espoir. Autant vous dire que on ne voit pas beaucoup la lumière du soleil. C'est comme si un cyclone avait ravagé le paysage sibélien, a dit le chef Robert Kajanus, fondateur du Philharmonique d'Helsinki et ami de Sibelius. L'intervalle qui domine ce mouvement, c'est le triton, considéré comme diabolique au Moyen-Âge. Et vous avez entendu ces cordes rugueuses, ces fins de phrases qui ne mènent nulle part. On dit Sibelius classique et Mahler moderne, ben c'est à voir, hein, finalement. Plus loin, dans ce même mouvement, les violons, avec très peu de vibrato, vont ajouter le côté fourmillement qu'on avait dans les deux premières symphonies, mais alors sans plus rien de romantique, avec même des éclairs inquiétants de bois et de timbales étouffées. chaque fois qu'il y a dans cette quatrième symphonie un élan qui pourrait mener quelque part, il est brisé net. Écoutez, par exemple, cette tentative des cordes de s'élever dans le mouvement lent, amenée par un hautbois solitaire, tout aussi solitaire que le violoncelle du début. Biographe de Sibelius, Eric Tavastierna, que notre chère Mildred Clary avait longuement interviewé sur France Musique il y a bien longtemps, soulignait que cette quatrième de Sibelius datait de l'époque où Freud développait la psychanalyse et il y voyait une exploration de l'inconscient. Si c'est le cas, on était bien pessimiste, vous l'avouerez jusque-là. Mais à l'entrée du dernier mouvement, voici au moins un peu de vivacité et de lumière, avec même un glockenspiel rarissime chez Sibelius, qui se contentait en général des timbales côté percussion. C'est une mosaïque avec violoncelle, puis violon solo, et même une envolée de clarinette dans l'aigu. Toujours ces mouvements perpétuels qui signalent chez Sibelius l'écoulement du temps qu'on ne peut pas arrêter. L'éclaircie ne se confirme pas et la quatrième se termine par la raréfaction et même la dislocation de la musique. La flûte tente bien une envolée, mais un hautbois dissonant lui coupe la parole. Les cordes esquissent à la fin un chant et il s'arrête net, bloqué sur une seule note. Thank you. vous rendez compte qu'on est la même année que Petrouchka et Daphnis et Chloé. Et Sibelius ose un paysage orchestral complètement dévasté où tout aurait brûlé. C'est radical, mais quelle beauté une fois qu'on a accepté de le suivre. C'était Klaus Mäkelä et l'Orchestre Philharmonique d'Oslo. Demain, rassurez-vous, on aura beaucoup plus de lumière avec la 5e symphonie. Et ce sera avec Marie Groux qui réalise cette émission, avec Nadège Antonini à la technique. Très bonne journée à tous, à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.